Oui, alors nous accueillons maintenant Jean-François Gay. C'est la chronique « Prendre la route ». On a eu bien peur de le perdre en fin de semaine. Salut Jean-François.
Salut, là. T'exagères un peu.
Non, ben j'en mets un peu, oui, ouais. C'est ça.
Ben, j'ai juste un petit... un plaster, on dit pas un plaster, mais j'ai un petit...
Oui, vite comme ça, on n'a pas l'impression que t'as été blessé très, très...
Un petit ruban.
Disons, t'as été blessé dangereusement, mais ça me semble assez léger. Mais non, mais t'as passé quand même un mauvais quart d'heure. Et comme tout le monde, quand on a des problèmes, quand on se blesse, eh bien, on a le réflexe de se rendre à la salle d'urgence. Et là, il faut se montrer patient.
Ben, tu vois, j'ai hésité, hein, tu sais, si tu veux qu'on aborde le sujet, j'ai hésité à savoir, parce que pour les gens qui ne savent pas, bien entendu, on est à la radio, je me suis cogné le front sur le rebord d'une portière, hein, parce que, tu sais, quand on change souvent de voiture, à un moment donné, on a de la misère à évaluer des distances par rapport au véhicule, parce qu'il n'y a pas un véhicule pareil. Alors, inquiète-toi pas, j'étais pas en état d'ébriété, rien, il faisait noir, puis je me suis cogné, le front, puis un front, là, ça saigne. Quand ça fait pas mal, mais quand c'est ouvert, là, c'est. Quand tu vois les boxeurs là, que ça saigne, là, c'est parce que c'est pas évident. Cela dit, là, j'ai hésité, j'ai dit, bon, je vais-tu à l'urgence, parce que là, ça va tout s'infecter. Puis à un moment donné, il y a quelques années, je m'étais aussi frappé le front dans d'autres circonstances. Puis j'avais été dans une clinique privée. Une petite clinique. J'étais arrivé là, à salle d'attente. Les enfants pleuraient quand ils m'ont vu parce qu'un front, comme je te dis, ça saigne. Et puis j'avais dit au médecin sur place, là, écoute, faut que je retourne, je suis sur un chantier de construction. Alors, recoue-moi ça. Et je suis pas équipé pour ça, va à l'hôpital. Non, alors recoue-moi ça. Ben, je suis pas équipé non plus pour te geler. Coupe-moi ça à froid.
Alors, c'est une clinique de quoi?
C'est une clinique médicale ordinaire. Dans un. Fait qu'ils m'ont cousu le front à froid, là. Sans bon. Fait que là, j'ai hésité, j'ai dit, j'attends-tu demain? J'ai dit, non, je vais à l'hôpital. Là, à l'hôpital, ils m'ont quasiment dit que, monsieur, franchement, on vient pas à l'hôpital pour ça. Alors, j'ai attendu un bon bout de temps parce que, moi, on m'avait donné la cote
P. 5 heures, t'as attendu 5 heures, hein?
Ben, à peu près. On m'a donné la cote P5. De P1, P2, P3, P4, P5. Donc, j'étais dans le bas de la liste.
Donc, t'étais pas une priorité. Non. Ça, je comprends.
Puis, finalement, ils m'ont pas cousu. J'ai pas eu des points de suture. Ils ont pris de la colle. C'est rendu moderne aujourd'hui.
La colle.
Ouais, hein? L'espèce de colle. Ils m'ont collé la peau. Puis j'espère juste qu'il n'y aura pas de cicatrice de ça, tout simplement.
Bon. Oh, t'es beau, puis, pareil.
J'ai eu une piqûre de tétanos.
Ah oui?
Ça, c'est important. Les gens qui nous écoutent, quand vous vous coupez avec du métal, tout ça, c'est important d'aller avoir une piqûre de tétanos. Puis c'est bon pour 10 ans.
Alors, pas d'effet secondaire. Tu viens de tout. Ça guérit bien.
C'est quoi ton nom, déjà?
Rosaire. Oui.
Salut Rosaire, comment ça va?
Ça va pas pire. Alors, ça guérit bien, oui, il n'y a pas de problème. Bien. Bon, ben excellent. Ouais. Ça t'a pas empêché d'aller au salon de la moto?
Non, je suis allé au salon de la moto, puis donc ça me donnait un petit air dur, hein, avec mon pas un plaster, voyons. Je cherche le mot.
Un diachylon.
Un diachylon, bon, ouais. Voilà, merci, monsieur le maître de la langue française. Alors, oui, je suis allé au salon de la moto.
Dans ce que tu dis, il y a peut-être des gens de Radio-Canada qui nous écoutent. Eux, ils ne seront pas d'accord. Hein?
Ah, d'accord. Alors, écoutez, moi, je suis allé au salon de la motocyclette. Oui. Et puis, tu sais que c'est en augmentation cette année. L'an dernier, à ma connaissance, il y avait eu environ 30 000 personnes. Cette année, il y a eu 33 000 personnes. Donc, c'est une augmentation, une légère augmentation, je pense, de 4 ou 5 %. Donc, les organisateurs sont bien fiers parce que le salon de la moto, hein, de l'auto plutôt, on sait qu'il y a eu une baisse cette année de l'achalandage. En parlant de salon d'auto, on va parler du salon de l'auto de Québec qui rouvre ses portes demain matin. Aujourd'hui, c'est à la journée de presse. Mais vous savez qu'ils ont annulé le salon de l'auto à Genève. Le plus gros salon automobile européen a été annulé.
Ben, c'est à raison du coronavirus.
Mais oui.
Ouais. Ah oui.
Parce qu'en Suisse, le gouvernement a passé un projet de loi. Tout événement où il y a plus de 1000 personnes qui doivent être réunies lors d'un événement ne peut avoir lieu.
Je ne suis pas contre l'idée.
D'ici le 15 mars.
Faut être proactif. Le moins de manifestations possibles pour, faut pas que le virus se propage davantage.
Ouais, mais en tout cas, c'est parce que là, on s'entend qu'eux, apparemment, que les organisateurs étaient fin prêts, là, pour, tu sais, ils auraient pu quand même donner des masques, des gants.
Ben, ils mettent ça sur la glace, puis ils feront ça dans le show pour un mois ou deux, non?
Ben, ils pourront pas, je pense.
Peut-être pas, non.
Fait qu'ils vont avoir des grosses pertes, mais.
Mais les gens vont survivre quand même.
Ah ben oui, j'imagine que oui. De toute façon, il y avait quand même...
Ils iront chez le concessionnaire.
Oui, mais les manufacturiers ont investi beaucoup quand même de millions là-dedans. Alors, il va y avoir des pertes assez importantes par rapport à ça. Parce que annuellement, il y a environ 600 000 visiteurs. Fait que c'est quand même...
un gros salon.
C'est un gros salon. Mm-hmm. Pour en revenir au salon de l'auto, le salon de la moto.
Oui.
Bon, c'est sûr que la moto, là, Jacques, au Québec, là, c'est un marché qui augmente d'une année à l'autre. Il y a même, je vous dirais, de plus en plus de gens qui font des voyages à l'extérieur en moto. T'sais, je parle pas qu'ils vont partir du Québec pour aller...
Ben, les jeunes retraités s'organisent. Hein?
Oui, ouais. Mais sans dire qu'ils partent du Québec pour aller aux États-Unis ou bien au Canada. Non, ils vont, admettons, en Europe. Puis rendus en Europe, les gens se louent des motos. Les gens vont en Amérique du Sud, vont un peu partout dans le monde. Ils se louent des motos pour visiter. Donc, c'est un marché qui est en pleine expansion à ce niveau-là. Il y a aussi de plus en plus de femmes qui font de la moto. Ça, c'est un phénomène qui a eu une augmentation, je vous dirais, depuis 2012 environ. Je vous dirais qu'actuellement, là, si on regarde les immatriculations auprès de la SAC, il y a environ 17-18% des immatriculations de moto qui est au nom d'agentes féminines. Donc, c'est quand même quasiment une ou un propriétaire de moto sur cinq. C'est une femme. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, de plus en plus de couples qui, comme tu dis, il y a des retraités, mais il y a aussi des jeunes femmes qui s'adonnent à la moto. On a juste à regarder sur les routes, là. Vous regarderez ça l'été prochain. Vous allez voir, il y a beaucoup, là, de...
Ben, avec le climat qui change, on a l'impression que les saisons seront peut-être plus longues, hein, pour les amateurs de moto.
C'est vrai. Puis aussi, la moto, on s'entend que ça consomme moins qu'une automobile.
Il y a ça.
C'est plus facile aussi à circuler en ville. Mais
concernant... Les assurances, c'est pas donné, mais ça, c'est un autre débat.
Les assurances, c'est pas donné. Concernant les accidents, vous voyez, je sais que la CAQ veut modifier le projet de loi, parce que pas le projet de loi, mais ils veulent amener des modifications à la loi, parce qu'il y a quelques années, il y a quoi, 2 ans, ils ont modifié la loi, notamment concernant les apprentis conducteurs. Autrefois, les apprentis conducteurs devaient, pendant le probation, si on veut, devait rouler avec des gens qui avaient un permis régulier. Et puis là, ben, apparemment que ça va être modifié éventuellement, surtout pour les gens qui vont avoir des motos plus sportives. En tout cas, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, là, mais c'est un milieu où, je vous dirais, les motocyclistes, tu sais, je les comprends au niveau de la frustration, parce qu'à un moment donné, c'est pas clair, il y a des modifications au niveau de la loi, c'est sévère, là, ils ont donné un peu de lousse, mais là, ça va redevenir un petit peu plus sévère. Donc, on va suivre ça de près. Cela dit, au salon de la moto, ben, tu sais, je te dirais maintenant, il y a tellement de motos, il y avait pratiquement 500 modèles sur le plancher. Il y a des motos sportives, bien entendu, il y a des motos plus, à vocation plus urbaine, il y a des motos aussi de touring, là, pour faire des grandes randonnées. Puis, il y a une catégorie qui est en pleine expansion, on l'appelle la catégorie aventure.
C'est-à-dire?
Ben, c'est des motos qui sont très hautes, hein. Je te dirais, même, je me demande comment les gens font pour enfourcher ce genre de moto-là. Parce que si on regarde la hauteur de la selle, la hauteur du siège par rapport au sol, c'est pas évident. C'est des motos, donc, qui ont le débattement des suspensions est très haut. C'est des motos aussi qui sont conçues autant pour rouler en ville, que rouler dans le désert, si tu veux. J'exagère. Là,
mais c'est quoi le but de l'exercice de faire ce genre de moto plus haute sur pattes?
Ben, c'est parce que tu peux, comme je te dis, on peut aller dans des dunes de sable. Quand je dis le désert, parce que souvent, si on regarde juste le nom des... Si on regarde Honda, par exemple, le modèle Honda, il s'appelle Africa Twin. Hein, on s'entend que c'est pour aller dans la brousse, c'est pour aller un peu partout. Pourquoi qu'il y a des motos comme ça? Ben, je te dirais, on n'en voit pas beaucoup au Québec. Mais ce genre de moto-là, Jacques, c'est un peu comme l'automobile. L'automobile, les manufacturiers, les constructeurs inventent de plus en plus de catégories, de sous-catégories pour élargir la clientèle, pour attirer de différents clients, pour que les clientèles aussi aient plus peut-être qu'une ou deux motos dans leur garage. Donc, même Harley Davidson, tu sais, qui est reconnu pour avoir des motos custom, des modèles de tourisme, là, il y a quelques années, ils ont commencé à faire des petites motos pour la ville, des motos à vocation urbaine. Là, eux, ils ont présenté au salon de la moto un prototype qui s'appelle Pan America. Puis c'est une moto, justement, qui est conçue pour rouler autant dans la brousse que dans le désert. Même j'ai vu au salon, j'ai vu des un motocycliste venir au salon de la moto en hiver. Il y avait une moto avec des pneus à clous.
Mmh.
J'ai vu ça là sur la rue de la Gauchetière. Une BMW, je pense, qui était stationnée là en face du Palais des Congrès en fin de semaine. Concernant Can-Am, tu sais que c'est Bombardier, c'est BRP.
Ah oui.
Eux, ils produisent des motos à trois roues.
Eux autres, ça va bien.
Ça va bien. Et puis, ils ont dévoilé la fameuse Spyder RT. Ce modèle-là a été dévoilé il y a 10 ans. C'était un modèle aussi qui était le modèle précurseur là, de la gamme Can-Am Spyder.
Ça, c'est avec trois roues, là.
C'était trois roues. Puis là, ils ont dévoilé la nouvelle génération au salon de la moto. Quand même, un modèle qui a évolué. Un modèle qui est plus...
Mais c'est un modèle comme ça, évidemment, pour quelqu'un, je sais pas, moi je décide de prendre ma retraite, puis je veux partir avec ma blonde, on s'achète chacun un Spyder.
Ouais.
Est-ce que ça prend de l'expérience? Parce que sur trois roues, j'imagine que c'est plus facile à contrôler et à conduire.
Ben, tu vois, le gouvernement du Québec, là, justement, pour encourager l'achat de ce genre de véhicule, un véhicule à trois roues, deux roues en avant, une roue en arrière, t'es pas obligé d'avoir une classe de moto pour conduire... un Spyder. Par contre, tu dois suivre une formation théorique obligatoire. Puis une fois que tu as suivi ta formation, ben tu as le droit de conduire le véhicule en question.
Et ça coûte 75$, j'imagine.
Bon, c'est sûr que c'est pas...
Non, j'ai remarqué ça au Québec, ça prend un permis pour conduire un bateau, puis tout ça. C'est une belle occasion d'aller chercher aussi dans les poches des consommateurs des sous, des dollars.
Oui, mais...
Non, c'est pas mauvais en soi.
Question
là.
De sécurité.
Oui, oui.
Tu sais, les cours, tu prends comme le... avoir son permis pour conduire un bateau, ben il y a des notions qu'il faut respecter hein au niveau de la conduite d'un bateau.
Ça dépend. Quand on navigue sur le fleuve, là, je comprends. Mais quand on navigue sur un lac, c'est...
Non, sur un lac, mais sur le Richelieu, par exemple, tu as des bouées que tu dois respecter.
Oui, mais c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Parfait, on va faire une petite pause et nous serons de retour avec Jean-François Gay immédiatement après. C'est la chronique « Prendre la route ». À pied, en moto ou en auto.